Et nous allons maintenant changer complètement de sujet, parce que je vais reprendre nos études dans le livre des Actes des Apôtres. Nous arrivons à un passage qui est vraiment intriguant, qui pose des problèmes à certains. Mais avant de regarder ce passage-là, j'aimerais lire une parole du Seigneur Jésus, une parole qui se trouve dans l'Évangile selon Luc. Ah, et moi, non, apparemment. J'ai essayé d'appuyer sur tout. Ça marche. Ah, c'est parfait. Merci. Parce que Jésus dit donc, dans le cadre de tout ton enseignement sur la prière, il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? On ne parle pas toujours du Saint-Esprit dans nos cultes. Ce n'est pas qu'il n'est pas présent. Après tout, c'est lui qui révèle Jésus et qui atteste que nous sommes les enfants du Père Céleste, il accompagne nos prières. Mais suivant les milieux, suivant les types d'églises, on parle de lui soit trop peu, soit de manière confuse. Et le passage que Nicolas m'a proposé ce matin est l'un de ceux qui nous intriguent et parfois nous malmenons. Ça se passe à Éphèse, qui était l'une des grandes villes de l'Empire romain, située près de la côte ouest de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. C'était une ville riche, universitaire, commerçante, capitale d'une province importante. En Actes 16, l'apôtre Paul aurait voulu y annoncer l'Évangile, mais le Saint-Esprit l'oriente autrement, vers le nord de la Grèce. En Actes 18, Paul y passe en coupant en route pour Jérusalem et il y laisse deux chrétiens d'origine juive, Priscille et Aquilas, qui témoignent de Christ tranquillement dans la synagogue sans faire de vagues. Un certain nombre se convertissent à Jésus-Christ grâce à leur témoignage. Et ensuite, c'est l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse et c'est là que je prendrai le récit, Actes 19, verset 1. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Quel baptême avez-vous donc reçu ? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 ans. Paul se rendit ensuite à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qui continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Nous avons déjà vu dans cette série que les premières églises ont été parfois fondées à partir de personnes tout à fait improbables. Il y avait par exemple à Philippe une groupe de femmes, dont une riche connaissante, et puis avec elle un malabar de l'armée romaine converti dans le civil gardien de prison. Mais à Éphèse, ce sera un peu plus classique, des juifs de naissance et des grecs. Avec en prime ces fameux 12 hommes qui se réclamaient de Jean-Baptiste, un groupe de disciples, dit le texte du verset 1. Apparemment, un groupe de disciples sans trop de lien avec le petit groupe qui se réunissait autour de Priscille et Aquilas, groupe lui qui semblait être bien instruit. C'était un petit groupe d'hommes qui ont cru, qui sont devenus croyants, ils ont même été baptisés. On dirait donc que ce sont des chrétiens. On les appelle croyants, on les appelle disciples, ils ont été baptisés. Mais en fait, ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne connaissent que Jean-Baptiste. Et mal, parce que le message de Jean-Baptiste, ils ne connaissent qu'à moitié. D'une manière ou d'une autre, ils ont répondu au message de Jean qu'il annonçait au début de son ministère. Ils ont entendu l'affirmation que le royaume de Dieu était proche. Ils se sont engagés avec ce message en s'engageant à changer de vie. Ils ont manifesté leur repentance et leur foi en Dieu en se faisant baptiser. Peut-être qu'ils avaient tous été en Judée à ce moment-là, ou alors l'un d'entre eux est allé là en Judée, ou deux. Ils sont revenus avec un message tellement fort que d'autres ont voulu changer de vie, d'autres ont accepté ce message, le royaume est plus proche. Il faut se repentir, il faut vivre autrement. Et donc, ils ont formé, là, à Éphèse, comme une sorte de, j'allais dire, de synagogue bis ou de confrérie, un petit groupe spécial, mais identifiant. Mais en fait, ils ont dû quitter Jean-Baptiste avant la fin du film. Parce que Jean-Baptiste a enseigné que quelqu'un viendrait après lui, quelqu'un qui serait plus grand que lui, plus puissant que lui, le Messie annoncé par les prophètes, et lui le Messie baptiserait, non pas dans de l'eau, mais dans le Saint-Esprit. Les douze, entre guillemets, disciples ne savent pas cela. Ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Et c'est d'autant plus étonnant que dans les lectures bibliques de la synagogue, le Saint-Esprit devait être mentionné plusieurs fois par an. Peut-être qu'il n'allait pas à la synagogue. Peut-être qu'ils étaient un peu plus dissidents que ça. Il fallait 10 ans pour constituer un groupe. Alors peut-être qu'il formait un groupe à part, on ne sait pas. Mais en tout cas, leur connaissance de la Bible se laissait à désirer, et leur compréhension de la naissance de Jean-Baptiste était incomplète. Ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit, alors que Jean-Baptiste n'en avait pas. Jean-Baptiste prêchait dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur, et il ignore tout de Jésus que Jean-Baptiste avait désigné comme étant le Messie. On peut penser que dans le ministère de Jean-Baptiste, il y avait trois étapes ou trois phases. Première phase, le royaume de Dieu est proche, il faut se repentir et changer de vie. Et nos deux hommes corchent cette phase-là. Deuxième phase, le Messie va apporter un changement encore plus puissant que je vous propose, dit Jean. Changement ancré au plus profond dans la vie du croyant, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, nos deux hommes, ils ne peuvent pas cocher cette case-là. Et troisième case, le Messie est venu, le Messie est là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Alors ça, vraiment, ils ne peuvent encore moins cocher cette case-là. J'aimerais vous inviter à vous mettre à la place de l'un de ces 12 hommes. Vous voilà donc qui avez pris des engagements spirituels forts. Vous vous êtes investi dans une vie de foi, de piété, de sainteté. Vous avez peut-être perdu des amis à cause de cela. Mais vous en avez trouvé d'autres, environ 2 autres, qui pensent comme vous. Est-ce que vous accepteriez, après cet engagement fort, d'être bousculé par un certain apôtre Paul et de dire « Je peux aller plus loin, je dois aller plus loin. » Ou est-ce que vous diriez « Je me suis converti une fois, ça suffit. Je ne suis pas une girouette. Je reste fidèle en mon premier engagement. » Et je peux imaginer que dans les assemblées chrétiennes, il y a des gens qui se trouvent devant ce genre de choix, des gens qui ont des certitudes, qui ont fait un bout de chemin avec Dieu peut-être, des gens qui sentent confusément que Dieu les appelle, les bouscule et qui hésitent. Alors si c'est le cas de quelqu'un, je prie pour que Dieu vous aide à franchir ce cas et à accepter de faire le pas de plus que Dieu est en train de vous proposer. Voilà donc nos 12 hommes qui écoutent les explications de l'apôtre Paul et qui adhèrent à son message. On peut dire que le ministère de Jean-Baptiste, même s'il n'en connaissait pas la moitié, ce ministère a porté du fruit. Jean a préparé la venue du Messie, pas seulement sur les rives du Jourdain, mais jusqu'à Éphèse. Et ce qui se passe ensuite peut nous surprendre. Les disciples de Jean-Baptiste se font baptiser. Ils se font rebaptiser. Ah bon? On peut être baptisé une deuxième fois? Quel était le problème la première fois? Ce n'était pas la quantité d'eau employée. Hein, la première fois, c'était dans le Jourdain. Dans un passage des évangiles, il est dit que là, il y avait beaucoup d'eau. La deuxième fois, Paul a dû trouver une rivière à côté, ou une grande maison du genre villa romaine avec des bains. Mais il y avait de l'eau, beaucoup d'eau dans les deux cas. Ce n'était pas ça le problème. Ce n'était pas non plus un problème d'âge des baptisés. Dans les deux cas, Jourdain ou Éphèse, il s'agit d'adultes consentants. Ils savent ce qu'ils font, ils s'engagent en connaissance de cause. Et puis j'ose dire que ce n'était pas non plus une question de formule. Je vous baptise au nom de. Alors, dans certaines églises, si vous vous trompez de formule, votre baptême n'est pas considéré comme valide. Et je reviendrai là-dessus. Le nœud du problème, c'est que il faut voir quel est le sens de ces deux baptêmes. Chez Jean-Baptiste, le baptême dans le Jourdain symbolisait un bain qui purifie, entre autres. Et les baptisés se font baptiser en confessant leurs péchés et en s'engageant à vivre différemment. Et il y a là-dedans la repentance, la foi en Dieu qui pardonne, le désir de changer de vie. Il y a aussi la reconnaissance du ministère prophétique de Jean. Et peut-être aussi le sous-entendu que les disciples de Jean vont se soutenir mutuellement dans une sorte de confrérie. Dans les Actes des Apôtres, pour le baptême chrétien, il y a différentes formules. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ou du Seigneur Jésus-Christ. Luc, en décrivant ce qui se passe dans ses premières années, ne semble pas s'attacher à l'exactitude d'une formule. Mais dans le baptême chrétien, il y a quelque chose qui change profondément par rapport au baptême de Jean-Baptiste. C'est le nom de Jésus-Christ que l'on prononce. C'est ça qui fait l'énorme différence. En Matthieu, il y a quelque chose qui dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et là, donc, vous avez de nouveau quelque chose qui est différent encore, une quatrième formule possible dans la Bible. C'est cette dernière formule qui est devenue la formule habituelle. Je reviendrai là-dessus. Donc, les disciples que Paul rencontre deviennent maintenant des disciples de Jésus-Christ. Ils prennent sur eux le nom de Jésus. Dans les pays où sévit une persécution fanatique, on tolérera que vous ayez une bonne opinion au sujet de Jésus-Christ prophète. On passera sur toutes sortes d'écarts par rapport à la religion officielle. Mais le jour où vous vous faites baptiser, vous signez votre arrêt de mort. Vous savez que potentiellement, vous vous êtes inscrit dans la compagnie des martyrs. Et par le baptême, vous dites que vous aimez Jésus-Christ à la vie et à la mort. Et c'est pour cela que nos 12 hommes ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comme j'ai dit, Luc a utilisé d'autres formules. Il ne s'intéressait pas à la précision des formules, mais il s'intéressait à leur sens. Porter sur soi le nom de Jésus-Christ le Seigneur. Et par rapport à la formule devenue habituelle, universelle quasiment, baptiser les noms au Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous avez en germe toute la révélation de Dieu dans laquelle on entre. Il y a un seul nom. Un seul Dieu. En Dieu, il y a trois personnes. C'est le mot technique. Père, Fils et Saint-Esprit. Et ces personnes sont distinctes, on dit, et du Père, et du Saint-Esprit. On ne les confond pas, on ne les divise pas non plus. Alors, pour répondre donc à une question qui pourrait inquiéter quelqu'un, est-ce que la formule exacte compte? Moi, je vais donner une réponse de Normand. J'espère qu'il n'y a pas trop de Normand dans la salle. Allez, une réponse d'anglais. Est-ce important? Oui et non. Non, si j'ai bien compris, parce que si on s'inspire du livre des Actes, ce n'est pas la formule qui compte, mais c'est ce qu'on met dedans. Oui, c'est important, parce que la formule de Matthieu traditionnelle est plus complète, et parce qu'elle est un signe d'unité avec d'autres chrétiens partout dans le monde. Donc, était-ce un problème de formule? Non, ce n'était pas ça le problème. Les disciples de ce passage, disciples de Jean-Baptiste, vont au bout de leur démarche spirituelle. Ils reconnaissent en Jésus le Messie promis. C'était ça le tournant. Et ils se font baptiser dans de l'eau. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Voilà. J'ai déjà dit ça. J'ai du mal avec ce truc. Excusez-moi. Ils ont été baptisés dans l'eau et maintenant, Paul prie pour eux en leur imposant les mains. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils parlent en langue, ils prophétisent. Le mot n'est pas employé, mais on est clairement dans la réalisation de ce que Jean a prophétisé. Je vous baptise dans de l'eau, mais le Messie vous baptisera dans l'Esprit. Et on peut se poser la question, est-ce que ça t'est arrivé à moi? Si je rencontrais un apôtre Paul en train de faire ses courses à Intermarché, est-ce qu'il me dirait, est-ce que Gordon, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je réponds? Ben, j'espère que je répondrai un peu mieux que les deux hommes d'Éphèse. Mais peut-être que je pourrais être troublé. Alors, quand je me suis converti, il n'y a rien de très particulier, il n'y a pas de signe, pas de miracle, je n'ai pas parlé en langue, je n'ai pas prophétisé. Il y avait quand même tout d'un coup dans mon cœur un immense sentiment de reconnaissance envers Dieu. Et il y avait quand même le désir d'approfondir la Bible. Je me souviens, le jour de ma conversion, j'ai lu 12 chapitres de Matthieu d'un trait. Oui, il y a des choses qui se sont passées. Mais bon, des trucs miraculeux comme là, non, pas pour moi. Et comment est-ce qu'on peut expliquer alors qu'il leur arrive quelque chose qui est très spécial? C'est la réalisation de ce qui se passe, de ce que Jean a promis. Mais que faut-il penser de ces signes miraculeux? Il y a deux explications erronées. La première explication erronée, c'est de dire que, en fait, ces 12 disciples d'Éphèse étaient des disciples au sens où nous l'entendons en tant que chrétiens. Mais non! Ils n'étaient pas disciples de Jésus-Christ. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ était venu, ils ne savaient pas que Jésus était le Messie, et ils ne savaient rien du message de Jean-Baptiste sur le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas des disciples où nous l'entendons, ils étaient des disciples dans ce sens qu'ils avaient une démarche spirituelle, sérieuse, sincère, réelle, repérable. Ils étaient même dans une espèce de confrérie, dans une espèce de mini-église, si vous voulez. Mais ce n'était pas des chrétiens incomplets. Ça, je crois qu'on peut être tout à fait sûr là-dessus. quand ils reçoivent le Saint-Esprit, c'était vraiment nouveau. Et deuxième explication que je vais écarter très rapidement, mais on pourrait l'entendre, ça y marque quelque part. Le premier baptême n'utilisait pas les bons mots. Ils n'avaient pas la bonne formule. Quand on change de formule, là, on va enfin recevoir le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça non plus. J'ai déjà écarté cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que l'explication qui tient la route, c'est que le Saint-Esprit a voulu prendre ces gens un peu à part et dire au monde entier qu'ils ont vécu exactement la même chose que les tout premiers. Ce qui se passe là, à Éphèse, c'est semblable à ce qui se passe le jour où 3000 Juifs se sont convertis, le jour de la Pentecôte. C'est dans Acte 2. C'est tout à fait semblable à ce qui se passe quelque temps plus tard, en Acte 8, quand l'Évangile est annoncé aux Samaritains. C'est encore un groupe à part, mi-juif, mi-païen, pas ennemi des Juifs du tout. Ils constituent une communauté religieuse à part. L'Évangile est annoncé, ils croient en Jésus-Christ, les apôtres viennent leur imposer les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit avec les mêmes signes que la Pentecôte. Preuve que de cette haine ancestrale, il n'en est plus question. Ils font partie du même corps, le corps de Jésus-Christ. C'est la même chose que chez les Romains. Acte 10, le Romain s'appelait Corneille. C'était un officier de l'armée romaine. C'était le premier païen, le premier non-juif et non-samaritain à se convertir. Mais les juifs, les païens, est-ce qu'ils peuvent vraiment entrer dans l'Église? Est-ce qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit comme nous? Est-ce qu'ils sont des croyants comme nous? Ah ben non, ils sont pas, ils sont impurs, ils sont païens. Il faut qu'ils fassent le concile, il faut qu'ils arrêtent de manger du cochon, il faut qu'ils célèbrent le sabbat. Non, les Romains sont authentiquement convertis comme les premiers. Et la preuve, c'est qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit avec les mêmes signes. Et puis, pareil pour nos 12 hommes d'Éphèse, un groupe un peu à part. Et le Saint-Esprit a bien voulu communiquer au monde entier que ces gens-là ne devaient pas rester dans leur coin, des disciples de Jean-Baptiste pour toujours, je ne bouge pas d'un pouce. Non, ils font maintenant partie d'une seule et même Église. Par un seul et même esprit, vous avez été baptisés dans un même corps pour former un seul corps. C'est dans l'Épître de Paul aux Corinthiens. Et voilà le sens de ce miracle. Voilà le sens de ce miracle. On a écarté les explications qui ne tiennent pas. J'espère que j'ai donné une explication qui tient la route. J'ai même lu que pendant des siècles, des communautés indépendantes, sur le clamant de Jean-Baptiste, se sont maintenues. Ça aurait pu être le cas. Mais non, un seul nom. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Le signe, ce ne sera pas forcément une nouvelle Pentecôte. Sans doute pas souvent. Les signes les plus ordinaires de la venue du Saint-Esprit sont les fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. C'est la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une soif pour la parole de Dieu. C'est la communion avec ses frères et sœurs et plein d'autres choses encore. Et s'il n'y a rien de tout cela dans votre vie, pas d'intérêt pour la parole de Dieu, vous n'avez pas trop envie de confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous ne vous sentez pas vraiment en phase avec vos frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui cloche, peut-être que vous seriez en droit de dire « Mais est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit ? » Peut-être que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Peut-être que je suis encore dans la voie de gens qui essaient de vivre droitement, mais il manque un truc. Qu'est-ce qu'il manquerait? Ben, il manquerait vraiment la reconnaissance pleine et entière de Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et si cette reconnaissance pleine et entière arrive, vous allez certainement regretter pas mal de choses dans votre vie antérieure. Et vous allez vous engager à suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme dans le chant que nous venons de chanter. Et le Saint-Esprit entrera dans votre vie. Et ce sera un grand bouleversement. Je vais donc prendre la parole de Jésus qui s'affiche toujours à deux niveaux. Si vous êtes de bonne volonté et que vous voyez qu'on est 12 d'Éphèse, moi je vous parlerai de Jésus-Christ qui est mort pour vous et qui est ressuscité. Vous pouvez lui donner votre vie, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit qu'il a promis, vous pouvez faire partie de son peuple nouveau. Et en deuxième niveau, si vous appartenez à Jésus-Christ, mais que quelque part vous avez attristé l'Esprit, si vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous avez laissé pousser de mauvaises herbes dans votre jardin, ben là, vous n'avez pas besoin de vous reconvertir, vous n'avez pas besoin de vous faire rebaptiser, mais vous pouvez revenir à Dieu dans une prière où se mêleront la confession d'une faute, la repentance, le désir d'un engagement renouvelé, la confiance en Dieu qui pardonne et qui donne l'Esprit encore et encore à ceux qui le lui demandent. Soyez remplis de l'Esprit, a écrit Paul dans l'une de ses épîtres. Donc, oui, si on s'est éloigné, on peut revenir. Et Dieu continuera alors son œuvre en nous. Je vais maintenant vous proposer un temps de prière et puis un temps de questions. La prière d'abord.